Vous écoutez France Musique.
Merci Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Le Parti d'en jouer, chaque dimanche soir à cette heure exquise de la nuit dans laquelle s'éteint le goût des jours de toute une semaine et dans le même temps où émerge l'idée qu'on se fait de ce nouveau cycle qui naîtra le lendemain. C'est donc dans cet entre-deux si singulier que se love Le Parti d'en jouer qui se joue à deux. C'est un doux jeu. Ce soir, je reçois une chanteuse qui a 26 ans, une voix qui déborde de lumière, c'est par les mots qu'elle nous éclairera sur elle. Bienvenue à Keras Kerat et bienvenue à vous, l'heure exquise, je vous disais.
C'est l'heure exquise.
Bienvenue dans Le Parti d'en jouer, Keras Kerat, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Ça, c'est une musique que vous écoutez quand même.
Ah oui, j'aime bien cette chanson.
Alors, on va voir que vous avez un petit accent, Kiara,
ouais.
Qui est un accent, très franchement, quand on s'est rencontrés la première fois, je me suis dit, mais... Alors, j'ai l'habitude surtout de ne pas me renseigner sur les biographies, les CV, justement pour garder le mystère un petit peu intact.
D'accord.
Et je me disais, mais vous venez d'où, Kiara, avec ce petit accent ?
Ah oui, mon accent. Alors, mon papa est flamand, donc belge, et ma maman, elle est suisse-italienne, donc du Ticino, près de Lugano.
Et vous avez grandi ?
J'ai grandi en Belgique, à Louvain, et après j'ai déménagé en France quand j'avais 14 ans, donc j'ai appris le français.
Vous l'entretenez, ce petit accent ?
Oui, un tout petit peu, mais on ne peut pas se débarrasser totalement de son accent, c'est un peu difficile.
Ah bah, y a des musiciens qui l'entretiennent un petit peu, hein.
Ah oui, non.
Ça fait partie du charme.
Oui, ça fait partie du charme. Mais bon, l'accent belge, oh, il est sympa, ça va.
Et donc, vous parlez plusieurs langues ?
Je parle plusieurs langues, oui. Je parle beaucoup de langues, pas à la perfection du tout.
Mais à 90%, c'est quand même pas mal.
Oui, c'est pas mal. Bon, pas tous à 90%. Je parle français, je parle flamand avec ma famille. Je me débrouille pas mal en français aussi. L'italien avec ma mère. Et après, l'allemand, j'ai voulu l'apprendre aussi. Donc ça, c'est plutôt du 70%. Je mixe un peu de flamand dedans. Parfois, ils rigolent, mes collègues allemands, parce qu'ils ne me comprennent pas toujours. Mais...
Oui, mais ça, c'est un petit jeu, ça.
Oui.
Vous rêvez en quelle langue ?
Aucune idée. Je me suis déjà posé la question. J'en ai aucune idée. Puis, moi, j'essaye de m'imprégner de la langue dans laquelle, avec laquelle je parle. Donc, par exemple, quand je suis beaucoup dans des pays germaniques, je pense plutôt en allemand. Quand je suis beaucoup en France, je pense plutôt en français. J'arrive pas très bien savoir dans quelle langue je pense.
Bon, en tout cas, bienvenue à vous, Keras Kerat, et on ouvre votre partie d'en jouer avec une sorte de musique de veille qui a bercé en quelque sorte votre enfance. C'est le chœur d'ouverture de l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Bienvenue à vous.
Thank you.
Oui, ça devrait être tous les jours Noël. En tout cas, c'est comme ça qu'on pense le parti d'en jouer. Bienvenue à vous, Keras Kerat. Vous êtes chanteuse, vous avez 26 ans. John Eliot Gardiner, de Monteverdi Choir, d'English Baroque Soloist. John Eliot Gardiner, justement, vous venez de faire une tournée avec lui. Vous en revenez.
Oui.
S'il est possible de revenir d'une tournée avec John Eliot Gardiner. Mais musique baroque, c'est quelque chose qui vous parle ou pas?
J'ai chanté du Mozart.
Ah oui.
Mais la musique baroque, ça me plaît beaucoup aussi.
Mais vous êtes obsédé par les voix qui doivent passer au-dessus de l'orchestre. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, voilà, ça c'est une de mes fixettes à moi, mais c'est intéressant parce que la notion de la projection, arriver avec ce qu'on appelle, les acousticiens appellent le singing formant, c'est-à-dire ce petit truc à 3 milliards, ce qui fait que malgré un orchestre de 80 personnes devant vous, malgré une salle de 2000 personnes, votre voix, avec deux petites cordes vocales au fond de la gorge, arrive à passer cette vague-là.
Je trouve ça très impressionnant et c'est beaucoup de travail aussi. Et après, c'est aussi physique. On a de la chance, on n'a pas de chance d'avoir une voix qui passe, mais on doit beaucoup travailler ça. Et j'ai eu la chance de faire une production de Parsifal de Wagner. Et là, quand on voit les chanteurs, ce qu'ils arrivent à faire, comme leur voix arrive à passer, ça me plaît beaucoup.
Mais alors, bon, on va parler bien sûr de l'inné, de l'acquis, de ce qui est le don du ciel et puis de ce que l'on peut travailler ou acquérir par le temps. Justement le travail, la gymnastique.
Oui.
Mais comment ça se travaille justement ça, le fait d'avoir une voix qui peut être un petit peu discrète, voix parlée, et qui pour autant sur scène arrive à mettre en place un mécanisme vocal, comment ça se travaille?
Ça se travaille de plusieurs façons. Et puis c'est pas seulement de passer fortissimo. Moi je trouve que c'est très important de passer le plus piano possible, d'avoir un orchestre, d'avoir un chef d'orchestre qui fait attention à ce qu'on ne pousse pas, on ne crie pas. Mais qu'on arrive à passer au-dessus de l'orchestre d'une façon, d'une belle façon, avec une voix saine, avec une voix bien projetée. C'est tout lié au souffle, tout simplement. Au souffle, il faut travailler un peu sa technique, et puis il faut avoir des bonnes cordes vocales aussi, ça aide.
Et un masque, ce qu'on appelle le masque.
Ah oui, le masque, oui. Ouais, bon. J'ai des bonnes pommettes pour ça, donc ça va.
Oui. Le masque, c'est quoi? C'est la résonance dans le nez? C'est au-dessus? C'est quoi? C'est entre les yeux?
J'en ai aucune idée. Puis il ne faut pas trop réfléchir en tant que chanteur. C'est là où les choses se compliquent.
C'est là où les choses se bloquent?
Oui. Allez, moi, je ne sais pas du tout. Je sais à peu près comment ça marche, une voix.
Mais en cours de chant, donc du coup, on apprend quoi?
On apprend plein de choses. On apprend à bien placer la voix, à travailler les gâteaux, travailler le texte, travailler la diction, tout ça. Mais je ne sais pas, mon prof, par exemple, ne me dit pas maintenant... Tu ouvres le voile du palais, puis tu, je sais pas, des trucs. Fais passer l'air à travers tes cordes vocales et produis un son. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est très psychologique, un chanteur aussi.
Thank you. bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et ceux-là, sans savoir, nous regardent passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés, et qui, pour tes grands yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux.
Partie d'en jouer avec Caras Kerat. Alors, il n'y a pas d'amour heureux. Maurice Ravel, le concerto, les doigts d'Arturo Benedetti, Michelangeli. Chiara, votre chat s'appelle ?
Mon chat s'appelle Maurice, en hommage à mon compositeur préféré, Maurice Ravel. Voilà. Je ne sais pas s'il aurait apprécié, mais il aimait beaucoup les chats Ravel aussi. Parce que je trouve que c'est le compositeur le plus élégant, le plus noble, le plus... c'est l'orchestrateur le plus sublime. C'est dommage qu'il n'a pas écrit beaucoup pour la voix. J'espère un jour pouvoir chanter Shérézade. Je trouve juste que Ravel... C'était mon premier rôle sur scène. J'ai chanté la princesse dans L'Enfant les sortilèges avec ma copine Hasna Benani qui est passée chez vous aussi à l'émission. Oui. Elle faisait l'enfant, je faisais la princesse. C'était une très belle expérience. C'était ma première expérience sur scène avec une musique aussi sublime que L'Enfant les sortilèges. J'étais gâtée.
Et vous étiez déjà à l'aise sur scène à cette époque-là, quand vous vous souvenez de cette expérience-là? Je vous dis ça parce que vous parliez d'élégance, et puis il y a peut-être cette idée aussi de félinité. On est parfois touché par des chanteurs qui dégagent une aura féline, des gens qui arrivent à se déplacer tels des chats sur scène.
Ah oui, je ne me déplace pas du tout comme un chat sur scène. J'ai dû apprendre à marcher sur scène parce qu'on disait que je marchais comme un camionneur. Parce que j'ai beaucoup d'énergie. Donc je ne suis pas trop féline, mais ça peut s'apprendre. Et puis pour L'Enfant les sortilèges, ce n'était pas très difficile pour mon premier rôle. Je rentrais, je traversais la pièce. Allez, la scène, elle était tout en longueur et je chantais, puis je revenais. Donc ce n'était pas très difficile pour un premier rôle, heureusement.
Est-ce que le chant permet d'apprendre à vivre? Ou est-ce que c'est dur de vivre avec le chant? En termes de contraintes,
oui, c'est pas toujours facile parce que quand on fait du violon, du piano, on peut toujours laisser l'instrument à la maison ou le mettre dans un coin et on vit constamment avec nos cordes vocales. Donc dès qu'il y a un petit truc, on est tout de suite affecté. Oui, non, c'est pas toujours facile.
Colmar,
oui, l'Alsace.
14 ans.
Oui, je suis arrivée à Colmar. J'ai fait du violon. J'ai fait 10 ans de violon. Heureusement, je n'ai pas continué, mais ça m'a quand même appris plein de choses. Puis j'ai fait de l'orchestre aussi, j'étais toujours à contre-archet, donc j'étais déjà soliste dans l'âme. Mais c'est très bien, on fait beaucoup d'amis dans un orchestre, tout ça. J'ai même rencontré mon mari à l'époque.
Dans l'orchestre ?
À l'orchestre A, c'est une petite dédicace. L'orchestre A de l'école de musique de Colmar, qui est maintenant un conservatoire, attention.
Alors donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, il y a des amours qui sont heureux quand même.
Ah oui, moi je suis très heureuse, ouais, j'ai de la chance.
Et puis quand vous êtes petite justement, vous êtes touchée C'est un peu difficile à expliquer, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, par Tosca, une Tosca blonde que vous passez en boucle sur le magnétoscope de vos parents.
Oui. C'est là on se rend
Tosca
compte
blonde, c'est un peu bizarre, voilà, mais...
Tosca, ben oui, mais en fait, j'ai trouvé... j'ai toujours allé à l'opéra, donc j'ai eu de la chance. J'ai un père très mélomane, qui m'endormait parfois avec La Mort d'Isolde, et Didon, et des trucs comme ça. Ah oui, il trouve ça génial, donc...
Ça endort facilement, ça
Je sais pas, j'ai fini par m'endormir, je pense. Et donc, j'allais toujours à l'opéra, mais j'ai trouvé une vidéocassette à la maison de Tosca. Et j'ai regardé cette vidéo, mais je pense tous les jours cette cassette. Donc c'est un des opéras que je connais le plus par cœur. Et il se trouve qu'après coup, je me suis rendu compte que c'est une Tosca blonde, alors qu'elle dit toujours que Tosca, elle est censée être brune. Donc j'ai pas envie de revoir cette vidéocassette parce que peut-être je vais être incroyablement déçue.
Bah surtout non, par rapport à l'air qu'on va écouter Mia Gelosa. Où c'est justement Tosca qui est jalouse du modèle qui est peint par son amoureux,
oui,
par
elle lui demande,
Mario. Elle lui demande
de lui faire des yeux marrons.
Des yeux marrons, sûr, ouais. Cheveux noirs, etc. Et c'est surtout cette scène que vous rejouez avec vos sœurs, je crois, Chiara.
Non, c'est pas cette scène-là, c'est la fin.
C'est la
mais
fin.
Ça, c'est ce morceau, c'était mon morceau préféré, ce duo. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais j'adorais ça quand j'avais 12 ans.
Mia Gelosa.
Mia Gelosa.
Gelosa,
sì, lo sento, mi tormento senza posa.
Mia gelosa, mia gelosa,
sono di
thank you.
Le duo Mia Gelosa, Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Victor de Sabata à la tête de l'orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, début de l'acte 1 de Tosca. La jalousie, Keras Kerat, est-ce que c'est un sentiment que vous connaissez ?
Ah non, pas trop. Je trouve qu'il ne faut pas être jaloux dans la vie. Oui, mais surtout pas de ses collègues. Surtout pas.
Entre chanteuses, ça n'existe pas, non ?
Ah, ça existe. Bien sûr, ça existe. Mais il ne faut pas essayer d'être jaloux. Parce que chacun a ses qualités. Et on doit admirer les autres.
Et on doit trouver sa voix.
On doit trouver sa voix. Et puis chacun est unique à sa façon.
Oui, non, je vous dis ça parce que c'est vrai qu'on peut mettre de côté la jalousie. Essayer de s'accepter aussi tel qu'on est.
Oui.
La voix qu'on a. Et puis, on peut quand même être admiratif d'autres grands chanteurs, en l'occurrence des grandes chanteuses, comme Lucia Pop.
Oui, ou comme Callas. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'un autre compositeur que j'aime beaucoup, Poulenc, il y a une vidéo sur YouTube qui m'a beaucoup fait rire, où il raconte qu'il était allé écouter Callas et Di Stefano à la Scala. Et en fait, Callas, elle a poussé Di Stefano pour prendre les applaudissements. Et à ce moment-là, il a dit « il faudrait trouver un opéra rien que pour elle ». Et c'est de là qu'est née l'idée de faire La Voix humaine, qu'il a bien sûr donnée à Denise Duval, à sa chanteuse fétiche. Donc je trouve ça très rigolo comme histoire.
Alors c'est vrai que Lucia Pop, vous êtes absolument fan de sa voix. On comprend pourquoi. Bon, destin aussi tragique, morte beaucoup trop jeune, 54 ans. Tumeur au cerveau, et puis une des plus grandes voix qui a aussi beaucoup évolué dans des rôles un petit peu plus lourds,
oui, elle
plus
a
costauds.
Elle a une belle évolution, puis bien sûr j'adore des gens comme Callas, des gens comme ça, mais je ne peux pas vraiment m'en inspirer parce qu'on n'a pas beaucoup de répertoire en commun. Je veux dire, le jour où je chanterai Tosca, j'aurai peut-être 50 ans, ça serait super. Mais ce n'est pas pour tout de suite, et c'est peut-être même pour jamais. Et Lucia Pop, c'est très intéressant de voir son évolution, de voir, elle a commencé par La Reine de la Nuit, après elle a fait Pamina, après elle a fait Nos Roses Cavalières, elle est passée par Sophie, après Marshaline. Les Noces de Figaro, elle a chanté aussi presque, commencé par Suzanne, après on continue avec La Comtesse. Donc c'est une carrière qui est très intéressante.
Et puis une lumière.
Pour moi, Keras, la plus belle voix du monde.
C'est ça. Si vous deviez quand même expliquer à des enfants, atelier pédagogique, qu'est-ce qui est génial dans le timbre de cette voix unique ?
Ça me fait toujours rire, comment on qualifie une voix de fruitée, de ronde, tout ça. Mais bon, il faut bien mettre des adjectifs sur des choses qu'on ressent, sur des choses qu'on entend.
Et alors, avec vos mots, ça donnerait quoi ?
Moi, je trouve juste que c'est rond, c'est beau, c'est lumineux, c'est plein. En même temps, c'est... Puis c'était une grande musicienne, une grande diseuse aussi. C'est pas que la voix non plus, c'est un package.
Thank you.
Et oui, que suave soit le vent, tranquille soit l'onde, Fiordiligi d'Orabella, Don Alfonso, le premier acte de Così fan tutte, Soave il vento, avec Lucia Pop, Brigitte Fassbender et Tom Krause. Alors, Cara, c'est vrai que vous n'avez pas voulu passer quelque chose où Lucia Pop était seule. Là, on l'entend, cette espèce de lumière, de strate lumineuse, toujours au-dessus, et puis quand même... Une musique, on pourrait écouter ça toute notre vie, on s'en porterait pas plus mal quand même.
Je pense que c'est une des plus belles choses que Mozart a écrit. Pour moi, c'est Soave Ciel Vento, c'est juste magnifique. Mmh. Et s'il fallait retenir qu'une chose de Mozart, pour moi, c'est ça. Je l'ai d'ailleurs chanté à mon mariage.
Ah bon ?
Oui, oui, avec tous mes amis qui ont fait l'orchestre, avec ma copine Vanina Santoni, qui est une très bonne soprano aussi, avec mon ami Bariton, qui était en même temps le photographe. Donc voilà, moi, je fais les choses... J'aime bien faire des choses un peu artistiques aussi. Quand on...
Oui, oui, puis c'est auguré d'un bel avenir. Soave il vento, que ce vent vous porte vers le bonheur.
Exactement,
c'est,
oui, oui.
C'est le départ de Guglielmo et de Ferrando qui vont revenir faire un tour. Quoi.
Oui, puis Mozart, c'est le compositeur qui convient le mieux à ma voix. C'est celui que j'aime le plus chanter. Si je pouvais chanter que du Mozart, ça me suffirait largement.
Et vous avez pris des masterclass, vous faites des masterclass avec Brigitte Fassbender.
J'en ai pris une. À Vienne, je ne sais plus combien, il y a quelques années. C'est d'ailleurs la seule masterclass qui m'a apporté quelque chose parce que je ne suis pas très, fan des masterclass. Je trouve que ça ne sert plutôt pas grand-chose. Ça fait beaucoup stresser l'étudiant. En tout cas, j'espère que je pourrai ne jamais en donner un jour quand je serai vieille, qui sait. Parce que je trouve que ça n'aide pas grand-chose. Mais Fassbender, oui. Par contre, elle m'a beaucoup aidée. J'avais chanté un lied de Mendelssohn, un Flügendes Gesanges. Puis il m'a beaucoup aidée avec la façon dont je devais chanter. Que, en fait, un Flügendes Gesanges, il fallait que je pense un A, je visualise un A qui se transforme en E. C'est des choses très chanteurs, un peu.
Oui, mais de couleur de voyelles.
Non, pas de voyelles. C'est qu'il faut que je m'imagine vraiment les voyelles qui se transforment pour créer le legato. C'est des choses. Elle m'a expliqué des choses que peut-être. Ça ne va pas parler à l'auditeur qui ne pratique pas le chant ou peut-être que du coup, ils vont apprendre comment chanter tout d'un coup. Mais moi, ça m'a beaucoup aidée. Ouais. Et puis, elle est très sympa aussi.
Alors, la carrière peut s'arrêter, mais la vie privée, c'est ce qui reste.
Oui.
Ça, c'est important.
Oui, je pense que c'est très important.
Alors, on parlait des masterclass avec Brigitte Fassbender, mais il y a surtout une rencontre très importante pour vous,
ouais.
Parce que là, il y a un suivi pédagogique, artistique, esthétique. C'est avec Ruben Lifschitz, qui a eu comme élève... Qui a encore comme élève le grand Stéphane Degout.
Thank you. puisque la belle fleur est morte, morte l'oiselle.
Oui, c'est du très très grand art, chanson pour Jeanne Chabrier, Stéphane Degout, à la voix Hélène Lucas, dans le parti d'en jouer le vôtre, Carasquerade. Vous êtes chanteuse, vous avez 26 ans si vous nous rejoignez sur France Musique. Alors là, la filiation, c'était surtout par rapport au professeur aussi de Stéphane Degout, Ruben Lifschitz, que vous rencontrez lors d'une session à Royaumont.
Oui.
En 2011, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc vous disiez, c'est vrai qu'on peut se méfier des masterclass et de ce contexte qui est un petit peu particulier, parce que c'est vrai que c'est la parole d'un maître. Après, ça dépend comment on la met en scène aussi et comment on crée des conditions propices au travail, à la confiance, à la complicité, sans cette pression effectivement qu'on peut ressentir très souvent en assistant à des masterclass. Mais Royaumont, Ruben Lifschitz, et là, c'est quand même une vraie rencontre.
Oui, oui, et puis c'était pas une masterclass, c'est des sessions de travail en fait. Royaumont m'a beaucoup aidée, c'est eux qui m'ont fait confiance au début. J'ai eu des bourses aussi, ils m'ont beaucoup aidé aussi pour que je rencontre Ruben Lifschitz. Je leur dois ça au moins.
Et qu'est-ce que vous avez appris ? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ? Je sais que c'est toujours un peu difficile parce que vous continuez à travailler avec lui, mais,
oui, oui, oui.
Mais ce que une personnalité peut vous apporter ?
Alors Ruben, je pense qu'il m'a presque tout apporté artistiquement. Mais pas seulement artistiquement, aussi la façon d'aborder un programme, la façon d'aborder le récital que j'affectionne beaucoup. C'est un peu mon professeur Higgins, à moi.
Et ça se traduit par quoi ? Parce que vous avez été aussi au CNSM avec Len Chambers.
Oui, oui, c'est encore mon prof aussi.
Encore votre prof.
Dans la chance d'avoir des
promo, on va dire, avant Asna Benani,
ouais,
puis
oui.
Sabine Neuvielle, je crois aussi.
Oui, oui, il y a des grands chanteurs dans ma promo.
Oui, alors donc 2 ans de CNSM, et puis quand même, on parfait toujours.
J'en ai fait 4.
4 ans.
Oui.
Et donc Ruben Lifschitz, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quand même ce qu'une personne comme lui peut arriver à débloquer ou à créer des situations de déclic où on comprend des choses, où il parle un langage aussi que vous comprenez ?
Ah oui, Ruben Lifschitz, c'est quelqu'un, il est assez âgé, puis il a travaillé avec les plus grands pianistes. Il dit toujours une phrase de Cortot, « Laissez la musique tranquille ». Donc en gros, on revient en source, on revient à la base, on prend le texte, on regarde la musique, et puis après, il a une façon d'enseigner qui fait que tout est logique, que tout paraît juste. Et il veut justement qu'on arrête de penser qu'il n'y a que Fischer, Dieskau et Schwarzkopf qui sont certes des super chanteurs, mais qu'il faut trouver sa façon d'aborder le récital parce que c'est un art très important pour moi et il faut le défendre. Mais à sa façon, en étant jeune, en apportant un nouveau souffle en quelque sorte.
Et en
tout,
se méfiant,
en respectant, tout en respectant la musique et le texte. Mm-hmm. Surtout pas partir dans des maniérismes, dans des trucs
oui, les maniérismes,
que
justement.
Je n'aime pas du tout. Voilà.
Mais le maniérisme, c'est, vous pouvez peut-être le dire pour les auditeurs du Parti d'Angers, mais le maniérisme, c'est justement quand on n'arrive pas à faire soi-même quelque chose avec sa propre personnalité.
Je pense.
Et qu'on fait quelque chose d'un peu forcé qui peut-être être un clin d'œil à un chanteur ou à une manière,
oui.
À la Schwarzkopf.
Mais copier. Il ne faut pas copier. Il ne faut jamais copier. Il faut toujours écouter. On peut bien sûr écouter les autres. Moi, je suis une grande J'écoute beaucoup de musique, j'écoute beaucoup mes amis, mais des gens que j'admire, comme Lucia Pop ou d'autres. Mais il ne faut jamais vraiment essayer de faire comme eux, parce que sinon, ça devient peut-être ennuyant, du déjà entendu. Ou...
Est-ce que parfois, vous êtes contente de vous ? Ou vous avez cette impression que le concert s'est bien passé, et puis vous avez des retours un petit peu plus contrastés, plus modulés, voire négatifs en vous disant « bah non, là, j'ai trouvé que ce n'était pas toi ».
Le jour où je serai contente de moi, je pense que je vais arrêter de chanter. Parce que si on commence à trouver super ce qu'on fait, des
non,
retours vraiment négatifs.
On a un sentiment de quelque chose qui s'est plutôt bien passé.
Ah oui, bon, après, il y a des gens, il y a toujours des gens un peu bêtes qui viennent te voir, qui te disent des trucs mal polis ou des choses. Un chanteur est très sensible après un concert. Il ne faut jamais lui dire, faire un compte-rendu tout de suite après, parce qu'on a donné notre âme sur scène. Surtout, le récital est un art où on est très nu, c'est très intime. C'est pas du tout l'opéra. L'opéra, t'es dans un personnage, il y a le quatrième mur, ou le troisième, je sais même plus. On est protégé, alors que le récital, tu es tout seul avec ton texte et t'essayes de faire passer ça.
Est-ce qu'on peut traduire ou transposer la leçon du récital, mélodie leader, dans le fait que ça apprend aussi à être soi-même, sur la scène de l'opéra ? Parce que vous parliez en début d'émission, par exemple, du fait qu'avoir une voix qui passe l'orchestre, qui va jusqu'au bout, ça se traduit aussi dans les pianos, dans les notes un petit peu moins fortes. Voilà.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'on peut arriver à utiliser cette substantifique moelle du récital dans l'opéra ?
Ah, moi, je trouve qu'on peut très bien faire de l'opéra du récital. Regardez Stéphane Degout, c'est un magnifique chanteur. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est dans Totestadt à Bastille. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et après, du coup, j'ai rencontré Robin. Je me suis dit, ah oui, quand même, j'ai compris. Et je pense qu'on peut très bien faire du récital avec une voix opératique et qu'il ne faut pas non plus être, je ne sais pas, super intellectuel et faire que du récital pour faire passer la beauté des leaders et des mélodies que je défends.
Alors c'est vous qu'on va entendre justement, Kerascarat, ici. Alors je sais que vous allez enlever le casque, hein, parce que vous n'allez pas vous entendre comme beaucoup de musiciens et musiciennes.
Mais celui-là, je l'aime
dans
je l'aime
le Wiegenlied.
Parce que quand j'étais petite, après coup, je me suis rendu compte, j'avais un espèce d'éléphant où tu tires une ficelle et après ça fait de la musique. Et après coup, on s'est rendu compte que c'était le Schlaf qu'on va entendre de Schubert.
Oh.
Le magnifique Wiegenlied de Schubert, Deutsch 498, avec l'orchestre philharmonique de la radio de Sarrebruck, dirigé par Sacha Goetzel, avec vous, Chiara Skerat. Très belle musique, musique de l'éléphant pour vous, vous nous disiez. Ouais. Magnifique musique. Et puis, dernière chose sur quand même Ruben Lifschitz, parce que vous me disiez qu'il y a quand même toujours cette réflexion pour un chanteur de savoir établir un rapport juste avec le public.
Oui.
Parce que, en réalité, est-ce qu'on chante pour soi, peu, beaucoup, entre les deux, ou est-ce qu'on chante avant tout pour un public ?
Mais Ruben m'a appris qu'on ne chante pas pour le public. On chante des textes, on chante des choses, de la musique, et c'est au public de venir vers toi. Et c'est que là où peut se passer le miracle du récital, ou quelque chose d'unique et de magique.
Ça veut dire se recentrer complètement sur soi.
Oui, et c'est le plus dur.
C'est ça qui est dur.
C'est très facile de faire du faux, de faire du superficiel.
Oui, c'est intéressant parce que donc, école de la vie ou pas, quand on travaille à ce point-là, justement, sur le fait de se recentrer sur soi, est-ce que ce n'est pas une pente qui est un petit peu glissante et dangereuse ?
Bien sûr, mais il faut prendre des risques.
Ça modifie un tempérament, ça l'oriente, ça le polie, ça le façonne.
Le jour où j'arriverai à centrer mon tempérament, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est pour ça que j'ai des gens comme Ruben, j'ai des gens comme Glenn qui me disent « Allez Chiara, on va se recentrer parce que je déborde un peu d'énergie. J'ai envie de tout faire, j'ai envie de faire ce répertoire-là, ça, j'ai envie de chanter ce rôle, j'ai envie de chanter ça. » Voilà. Ce qui permet, ma mère, elle a dit que même quand j'étais petite, quand on allait au supermarché, il fallait faire attention parce que je prenais toutes les choses qu'il y avait dans les rayons, je voulais tout acheter. Donc j'ai toujours eu envie de faire tout. Donc c'est pour ça que des grands maîtres comme Ruben, ça aide pas mal parce que du coup, ils m'aident beaucoup aussi, même pour mes programmes et tout. Ils disent, Chiara, ça sert à rien de vouloir tout chanter, chante ce qui te va pour l'instant.
Alors justement, dans le travail de la chanteuse, quand on vous propose par exemple des rôles, bon, pas pour les concerts, mais plutôt à l'opéra.
Oui.
Il y a de votre part quand même un jugement sur la partition, sur la tessiture du rôle,
oui,
que nécessite le rôle. À partir de quand, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, et surtout pour les auditeurs du Parti d'Anjou, comment vous décidez de le faire ou de ne pas le faire ? Et quels sont les paramètres sur lesquels vous vous appuyez ?
Alors les paramètres, malheureusement, c'est toujours la voix. Il y a des rôles qu'on a envie de jouer ou de chanter, mais c'est toujours la voix qui décide. Il faut aller lentement. Il faut être prudent. Il faudrait qu'on arrive...
Mais c'est vraiment des questions de hauteur, de...
C'est une question de...
De longueur.
De hauteur et de largeur. De... C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, je suis une soprano. C'est aussi l'âge qui compte.
L'orchestre aussi, peut-être, si c'est un grand
l'orchestre,
l'endroit, le lieu.
Le chef d'orchestre aussi. Parce que, voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup mes soubrettes, les petites servantes. Je m'éclate dedans. Ça me plaît beaucoup. Puis j'ai vraiment besoin d'opéra aussi. J'aime beaucoup le récital, mais l'opéra, c'est là où je peux enfin me laisser aller et faire tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'aime beaucoup l'opéra aussi, parce qu'on peut s'amuser. J'aime surtout les rôles tragico-comiques, c'est-à-dire où tu peux faire rire et en même temps, tu peux faire pleurer. Ça, c'est l'idéal pour moi. Mais c'est un peu compliqué comment on choisit les rôles. Et c'est pour ça aussi qu'on a des profs, on a des gens qui nous conseillent. Et puis on essaye par exemple les airs pour voir si ça va notre voix ou pas. Mais pour l'instant, je chante surtout les rôles en A. J'appelle ça les Susanna Despina, Adina.
C'est pas les rôles.
Moi, j'appelle ça Pamina. C'est tous les A à la fin. Donc voilà.
Puis après, vous passerez au. C'est quoi la phase d'après ?
Après, c'est plus aussi rigolo. Là, je sais pas. Mais après, bien sûr. Mais bon, si on chante déjà tout à mon âge, il me restera quoi ?
Parce que dans Léa, il y a quand même Tosca, Violetta et tout ça. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié.
Il y a deux catégories.
Non, ça, je ne peux pas chanter, malheureusement. Non.
Balkan, Balkan, Balkan et Balkaneros. Vamos. Siéntame, mi nena, que
Ben oui, bien sûr, vous êtes sur France Musique dans le parti d'en jouer, Balkanieros, Goran Bregovic avec featuring, comme on dit, The Gypsy Kings.
Ouais.
Ça parle à tout le monde, ça.
C'est un comeback, hein.
Balkanieros. Alors, je comprends pas, Carascara, parce que vous m'avez dit, je fais du yoga, j'ai essayé d'être végétarienne, ça a duré une semaine et demie, ça marche pas. Mais je sais pas, ça c'est de la musique de club de sport.
Ah non, mais j'ai toujours aimé Goran Bregovic. Ouais. Et les Gypsy Kings, je trouve ça juste génial qu'il les a appelés pour faire ce numéro. Parce que bon, c'est le CD que tes parents te mettent dans la voiture. Ils disent « Ah, super cool !» Et voilà, je suis beaucoup toute seule aussi quand je pars en production. Je suis un mois à l'étranger. Donc du coup, quand personne n'est disponible sur Skype au téléphone, ah ben, je mets ça. Comme ça, au moins, ça me redonne un peu le sourire.
Et puis, quand vous rentrez dans la chambre d'hôtel aussi le soir,
oui, surtout après une représentation. Après, je déborde d'énergie. Et puis, il est 1h du matin, t'arrives pas à dormir. Donc, parfois, je mets ça après. Je me sens mieux. Puis, j'aimerais bien un jour travailler avec lui. Mais bon, je suis juste une chanteuse d'opéra un peu ennuyante suisse. Donc, je pense pas que ça va
non,
se passer.
Non, alors, bon, ouais. Oui, enfin, c'est les lieux communs. Ouais. Je vous trouve pas très suisse, en fait, Cara.
Bah, c'est parce que ma maman est suisse-italienne. Je suis tessinoise. C'est pas la même chose.
Comme Chiara Banchini, grande violoniste baroque.
Oui.
Alors, on parlait de Stéphane Degout. Il se trouve que ça va être votre mari, pas dans la vraie vie, mais sur scène.
Mon mari dans la vraie vie, ça peut être Stéphane aussi.
Ouais. Puisque vous avez commencé aussi à travailler beaucoup avec Marc Minkowski, Euridic, et puis l'année prochaine à l'Opéra Comique, La Chauve-Souris de Strauss.
J'ai de la chance quand même d'être avec des chefs d'orchestre comme ça. Hein.
Puis d'avoir un mari quand même comme Stéphane Degout.
Ah oui, je ne me plains pas. Hein. Le pauvre, c'est plutôt lui.
Et puis ce fameux air de Rosaline qu'on va écouter donc en partie, qui peut être fait, en fait, vous me disiez, de plein de manières différentes.
Oui, le tchardage.
Super musique, hein. Ouais. Chauve-souris, Johann Strauss, Julia Varadi dans l'air de Rosalinde, que vous allez bientôt chanter. Ça sera quand à l'Opéra Comique?
En décembre prochain.
En décembre, mais alors en français?
En français, oui. Heureusement, ils ont refait la traduction. Donc, oui, ça sera en français.
Alors, on arrive bientôt à la fin de ce parti d'enjeu. Alors, on pourrait peut-être inventer un petit jeu qui consisterait à dire tout ce qu'on n'a pas pu dire dans cette heure de partie d'en jouer. Est-ce qu'il y a des choses importantes par rapport à votre vie de chanteuse que vous vouliez dire, Chiara?
Par rapport à ma vie de chanteuse, pas que je suis très reconnaissante des rencontres que j'ai faites, des gens qui m'ont fait confiance, des gens qui m'ont dit « je te fais confiance, je te lance, je te donne ce rôle-ci », des metteurs en scène qui m'ont beaucoup aidée aussi à me libérer sur scène, à faire du théâtre, tout ça. Donc oui, je suis très très reconnaissante.
Et puis difficile de travailler aussi, de chanter dans des conditions où vous ne sentez pas cette confiance-là. j'imagine.
Oui. Ouais.
Et le chant peut devenir une souffrance.
Ouais, mais
ça peut être dur.
Ça peut être dur, mais j'ai de la chance d'avoir un petit clan autour de moi qui m'aime et qui me soutient, d'avoir beaucoup d'amis et qui me disent toujours « Allez, Chiara, tu vas y arriver, tu vas monter sur scène, tu vas être super et ça va marcher. » Donc, mais bon, après, si je suis super, c'est aux autres de juger. Moi, je ne suis pas du genre à dire que je suis la meilleure. Je ne voudrais surtout pas que les gens pensent que je suis une de ces sopranos qui pensent que je suis la meilleure du monde.
Non, bah, ce n'est pas du tout ce qu'on a ressenti. En tout cas, un grand merci à vous, Chiara Scarra.
Bah, merci à vous aussi. Hein.
Une belle route.
Oui.
Et puis on se quitte avec quand même la classe et l'élégance de Nat King Cole.
Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
mais oui, c'est vraiment la très grande classe, Nat King Cole, Fly Me to the Moon, Chiara Scarra. Waouh! Merci beaucoup à vous. In other words, please be true, en quelques mots, enfin en d'autres mots, soit vrai, quoi. C'est tellement beau, c'est que de l'amour.
Oui.
Merci d'avoir été avec nous dans le Parti d'Enjoué, qui a été réalisé comme d'habitude par l'ami Eric L'Ancien, avec la préparation de Jean-René Bonissant. Et aujourd'hui, la prise de son et au mixage, Jehan Richard Dufour. Bientôt 22h sur France Musique. Vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau, comme si vous y étiez. Bonsoir, Jérémy.